Jérôme Bovet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pourquoi il nous a pris par surprise, parce que le temps file. Vous êtes encore à Handicap International, le chapitre canadien.
Tout à fait.
Donc, vous êtes super occupé ces temps-ci.
Oui, oui, oui. Avec notamment cette crise dont on va parler
ouais,
un petit peu.
Tout à fait, parce que je pense qu'on est en plein dedans. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, étant moi-même parent de l'enfant qui a une déficience, ça m'était jamais venu à l'idée de dire qu'il pourrait y avoir effectivement des migrants qui se retrouvent eux autres aussi en situation de handicap.
Oui, mais alors justement, on va en parler un petit peu de ces migrants, ouais. De ces réfugiés. Moi, j'ai le sentiment que le monde a un peu ouvert les yeux sur le drame des réfugiés syriens le jour où le petit Elan a fermé les siens sur cette plage ouais, européenne. Ouais. C'est un jour où cette misère d'hommes, de femmes, d'enfants a cessé d'être une histoire qu'on raconte, qu'on raconte et qu'on vit à travers des écrans, de tablettes numériques ou de télé. Et pour être une histoire finalement qu'on ressent un peu plus dans sa chair, en imaginant tous, si ça arrivait à l'un de nos proches,
exact.
Si quelqu'un devait quitter son pays, devait fuir en exil et terminer sa route de cette manière-là. Pourtant, le drame des réfugiés syriens, ce n'est pas nouveau. Handicap International et toutes les ONG actives au cœur de la région tirent la sonnette d'alarme depuis le début du conflit. Les pays voisins, le Liban, la Jordanie, la Turquie, ont toujours accueilli les réfugiés d'une main, tout en réclamant de l'autre plus d'accompagnement pour absorber ces populations.
Ce qui est logique.
Mmh. Oui. Ben oui, et puis plus d'action internationale pour faire cesser le flot
ben oui.
De ces gens qui fuient la Syrie. Et puis ce qui devait arriver, ben, arriva, hein, c'est assez basique, leurs frontières se sont durcies, et puis la cohabitation entre la population hôte et la population réfugiée s'est tendue comme un mariage un peu trop forcé,
voilà.
Qui n'a pas les bonnes bases. Et
mais il y a
pas...
eu un règlement dernièrement européen, hein? J'ai lu ça, qui venait un petit peu mettre les balises.
Pour accueillir
oui,
notamment,
tout à fait.
Pour accueillir les migrants, oui.
Ouais.
Alors accueillir les migrants qui sont en Europe, mais il faut juste revenir sur un aspect, il y a 4 millions de Syriens qui ont fui la Syrie, 3,8 millions sont toujours dans les pays avoisinants.
Wow.
Finalement, les gens qui sont sur la route, on en parle beaucoup en ce moment, on les voit un peu plus dans la presse, mais ce n'est pas la grande majorité des réfugiés syriens qui sont justement aux abords du pays,
ouais.
Aux abords de la Syrie.
Ils sont encore dans les pays limitrophes, finalement.
Voilà. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, ces pays limitrophes ont durci aussi leurs règles d'accueil. Donc maintenant, les migrants commencent à fuir aussi des pays d'accueil.
Ah ouais.
Donc c'est ça, c'est là que vient le problème principal. Et c'est pour ça qu'on en entend plus parler dans les médias actuellement. Bien sûr, dans ce flot, ce tsunami de réfugiés qui a l'air de se déverser sur l'Europe, sur l'Amérique du Nord, même dans d'autres pays, on pense, et puis tout particulièrement ici à Accès Libre, on pense aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes blessées. Il y a aussi tous ceux atteints de maladies chroniques et qui nécessitent un traitement médical que la fuite ne peut plus apporter. Tous ceux qui ont dans leur famille quelqu'un avec une déficience intellectuelle et donc on ne peut plus l'accompagner correctement. On ne peut plus avoir l'attention qu'il faudrait pour cette personne, l'attention qu'on avait avant quand tout allait bien.
Et toute l'anxiété que ça projette aussi sur ces personnes-là, là, qui n'est pas évident.
Oui, et en plus, on en parlait en début d'année avec Luc à cette antenne, tout ce qu'il va falloir faire en santé mentale, tous ces gens qui portent maintenant en eux des troubles
ouais,
de santé mentale et qu'il va falloir accompagner, soit dans les pays d'accueil, soit dans leur pays après de destination finale.
D'où l'importance d'ailleurs d'aider parce que c'est bien beau que ces pays ouvrent leurs portes, mais il y aura, il faut aller plus loin que la couverture puis un peu de nourriture. Là. Il y aura des thérapies toute la vie, il y aura des orthèses, des prothèses, il y aura plein de choses. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée, mais en fait, j'imagine que non, Jérôme, mais il y a des personnes handicapées qui l'étaient avant le conflit. Et il y a des personnes qui sont handicapées à cause du conflit. Et donc, il y a des gens qui n'ont jamais eu de service, qui ne savent même pas peut-être comment vivre avec un handicap, qui sont obligés de se déplacer et de fuir. Qu'est-ce qui arrive avec eux?
Alors déjà, très honnêtement, je ne pense pas que la majorité des migrants soient des personnes en situation de handicap. Okay. Parce que tout simplement... C'est pas la population première
qui va quitter
parce qu'elle n'a pas les moyens, les capacités.
Ouais.
C'est quelque chose de plus difficile. Je pense plus que certaines familles de réfugiés envoient leur fils, envoient leur père en avant-garde un petit peu, en espérant que cette personne-là arrive s'établir dans un pays et après faire un rapprochement familial.
Ouais.
Finalement, parce qu'on en verrait plus dans la presse. Des histoires de personnes en situation de handicap, on en voit quelques-unes comme ça, mais ça fait pas la une de tous les journaux, toutes ces personnes handicapées qui affluent sur les routes d'Europe.
Alors, comment peut-on les aider, ceux qui sont encore sur le terrain, alors que le pays est à feu et à sang?
Alors justement, il y a vraiment trois aspects pour traiter la crise syrienne. La première, il faut arrêter l'hémorragie, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas nous forcément les humanitaires, c'est plus le rôle de la communauté des nations. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire cesser les combats et stabiliser la Syrie et toute la région pour permettre l'arrêt de l'exode, le retour des populations et puis la reconstruction.
Là, il y a un émissaire de l'ONU actuellement qui est là pour essayer de régler le conflit syrien, là.
Oui, un de plus, une nouvelle tentative d'essayer de régler le conflit syrien. Il y a tout un aspect aussi de droit international à faire respecter. On doit prendre en charge, on doit arrêter, par exemple, c'est interdit, c'est peut-être étonnant pour certains, mais c'est interdit de bombarder des zones civiles. Et c'est des règles, c'est la loi internationale, il faut la faire respecter. Et ça, il faut que les États s'accordent entre eux pour avoir une position ferme sur la Syrie, sur toutes les acteurs en présence. Bien sûr, Luc, vous le disiez, il faut accompagner davantage les pays voisins pour leur permettre de supporter l'afflux de population sans déstabiliser leur propre paysage social et sanitaire. Imaginez, au Liban, les réfugiés, c'est 20% de la population. C'est comme si le Canada, aujourd'hui, devait accueillir l'équivalent de la population québécoise en plus, instantanément.
Et dans un pays qui n'est pas très grand non plus, hein?
Pour le Canada, on les mettrait peut-être très très haut, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça engendrerait tellement d'aménagements, de services et de chocs culturels, peut-être même. Comprenez bien que c'est ce à quoi font face ces pays-là. Et puis enfin, il faut trouver une manière de favoriser l'accueil temporaire ou permanent des migrants ici, dans nos pays dits du Nord, dans nos pays développés. Parce que ces gens-là, ceux qui décident de quitter, c'est plus leur pays là-bas. Ouais. Si on a décidé, si on a eu le courage de quitter sa zone de vie, la plupart ne retourneront pas là-bas. Donc il faut reconnaître ça, il faut accepter ça, il faut les accompagner. Concrètement, Handicap International, mais comme les autres acteurs humanitaires, on continue d'offrir là-bas, en Jordanie, au Liban, des services de réadaptation, donc dans les camps, d'identification aussi des personnes vulnérables. Alors il y a celles qui étaient handicapées avant, c'est facile on va dire, mais il y a celles qui deviennent handicapées, donc là qui sont moins habituées à leurs conditions de personnes en situation de handicap, donc moins au fait de qu'est-ce qu'elles peuvent demander, quel type de services elles peuvent demander. Donc nous on a ces équipes mobiles là dans ces camps de réfugiés qui vont dans les rues, parce qu'il faut savoir qu'il y a des camps de réfugiés qu'on imagine avec des tentes, mais il y a aussi des camps de réfugiés dans des quartiers des villes jordaniennes, libanaises, et donc il faut aller à travers tout ça. Et puis il y a une chose aussi importante à faire, c'est de renforcer les services locaux en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Irak aussi, parce que certains réfugiés sont allés en Irak, parce qu'on assiste, nous humanitaires, à la baisse des financements. Il y a de moins en moins d'États qui nous payent, qui nous donnent de l'argent pour aider ces communautés. Ça va se terminer un jour, et on partira. Et donc si on n'a pas préparé les services à accueillir ce flot de nouvelles personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, une blessure qui n'est pas soignée peut se transformer en handicap. Donc il faut la traiter. Ouais. Il faut la traiter maintenant.
Jérôme, est-ce que c'est commencé cette idée où le gouvernement va doubler les sommes amassées par une coalition? Ou c'est juste une promesse puis que c'est pas encore mis en place?
Alors pour la Syrie, oui, c'est en place. Pendant tout l'automne, le gouvernement a mis en place ce qu'ils appellent le matching gift, donc en français, le matching gift.
Du jumelage.
Du jumelage. Et qui fait qu'en fait, tout l'argent qui sera donné à des humanitaires pour aider la crise syrienne, eh ben, le gouvernement va mettre en place la même valeur contre valeur.
En faites-vous partie? Est-ce que HI fait partie de cette coalition ou on va recevoir...
C'est pas une coalition. En fait, toutes les ONG qui sont actives en Syrie peuvent faire valoir ça. Okay. Il faut juste bien garder en tête que le gouvernement ne va pas donner aux ONG qui ont collecté forcément. C'est juste pour eux un outil de savoir combien le gouvernement doit donner. Donc il voit quelle est la générosité du public canadien, et il fait ses calculs, et il dit, moi je vais donner autant à tel et tel humanitaire.
Généralement, est-ce qu'ils livrent leurs promesses dans ces situations-là?
Oui, et en l'occurrence, en ce moment, c'est oui, parce qu'on est en train de déposer des projets, et ils vont donner les réponses assez prochainement, et c'est un peu normal.
Donc les gens peuvent donner actuellement.
Oui, mais il faut donner, il faut pas attendre le jumelage pour donner, il faut non. donner tout le temps.
Tout à fait.
Non, mais en même temps, c'est plus avantageux lorsqu'on se dit, ben mon 20$ va valoir 40. Alors, c'est quand même sympathique.
Oui, tout à fait.
Surtout si, si on n'aime pas trop le gouvernement, au moins on se dit, il aura fait ça pour moi. Merci bien, M. Jérôme, on se reparle le mois prochain.
Merci. Jean-François.